Vous êtes dans la matinale d'FM+, il est 10h10 et aujourd'hui nous allons parler de livres avec notre invité du jour. Comment on écrit un livre? Quelles sont les étapes à suivre? D'où vient l'inspiration? Apprenez-en plus grâce à notre invité. Un livre historique sur les procès de Jésus et un livre sur les Berbères dans la Bible. Restez à l'antenne pour découvrir plus sur ces deux ouvrages. Vous écoutez la matinale d'FM+, aujourd'hui Astrid Caboué au micro avec notre invité Nabil Ziani, documentaliste de formation, enseignant de vocation et journaliste de profession.
Bonjour Monsieur Ziani et bienvenue sur 91FM+.
Bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir.
Nabil Ziani, vous avez écrit trois romans dont le Mishpat Iudikium, les procès de Jésus dont nous allons parler aujourd'hui, ainsi que 9 livres dont les Berbères dans la Bible que nous aborderons par la suite. Mais avant de parler de vos ouvrages, j'aimerais, je dirais même, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes dans le milieu des lettres. Depuis quand ce goût pour la lecture et l'écriture vous sont-ils venus?
La lecture, c'est très simple, c'est depuis l'enfance. Mes parents lisaient, mon environnement était ouvert à la lecture. On a commencé très tôt et à l'école aussi, on nous a appris à aimer la littérature. L'écriture a commencé par une écriture technique, c'était des livres d'informatique dans les années 90 où la micro-informatique commençait et donc je publiais des ouvrages techniques. Après, j'ai pensé à commencer à m'exprimer parce que ma fille m'a dit « il faut que tu écrives quelque chose qui soit de toi et non pas simplement des éléments extérieurs » et j'ai commencé à écrire sur la poésie. J'avais fait un livre sur Omar Khayyam, le poète iranien, et puis j'ai fait quelques essais en littérature, et le dernier, c'est celui-là, c'est à propos des procès de Jésus.
Et comment naît l'idée d'écrire un livre?
Je crois que quelque part en moi, il y a toujours ce désir de communiquer, de partager, de dire ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris ou pas, les questions que je me pose. J'aime bien partager parce que j'ai été enseignant et donc j'ai toujours communiqué, j'ai toujours échangé avec mes étudiants, avec mes confrères. Et c'est une joie de partager, de recevoir et j'ai toujours aimé ça. Et puis, l'écriture, c'est ce qui permet de fixer tout ce qu'on a envie de dire et non pas simplement des paroles en l'air. On les fixe, comme ça nous avons une base de critique, de lecture et tout ça, quoi.
Est-ce que vous avez des rituels pour écrire, par exemple, écouter de la musique ou boire un petit café?
Alors, j'ai lu des articles à ce sujet, mais en fait, quand on fait de l'écriture technique, oui, il faut s'organiser de façon rigoureuse avec sa petite tasse de café. Certains fument d'abord une cigarette, d'autres s'adonnent à un verre de whisky, etc. Mais quand c'est de l'inspiration, non, franchement, non, ça vient ou ça ne vient pas. On peut se mettre devant un ordinateur pendant des heures et rien ne vient, comme on peut avoir une idée dans un bus et courir à la maison pour pouvoir la mettre par écrit. Voilà, donc il n'y a pas de rituel particulier.
Et vous, d'où vous vient l'inspiration?
D'abord, je lis beaucoup, et je compare mes lectures, je croise les données que j'ai, jusqu'au moment où je me fais une idée sur le sujet, et en particulier une idée qui soit personnelle, qu'il ne faut pas que ça soit la même que celle de l'autre, sinon ça ne sert à rien. Et à partir de là, je me dis, bon voilà, j'écris tout ça et je la soumets à mes lecteurs, et c'est eux qui vont me dire si c'est intéressant ou pas.
Imaginons, demain j'ai l'inspiration, j'écris un roman, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir à une édition?
Le processus peut être long. Il faut d'abord écrire, ça c'est le plus important. Écrire, 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 ne pas s'arrêter d'écrire. Quand on a fini, quand on a l'impression d'avoir dit tout ce qu'on avait à dire, là on commence la rédaction réelle, c'est-à-dire les corrections, l'amélioration de style, les modifications, etc. jusqu'au moment où on obtient un manuscrit, on se dit « ça y est, je pense que j'ai fait mon livre ». Là, le parcours du combattant commence parce qu'il faut envoyer tout ça à des éditeurs. Et sur 10 éditeurs que vous contactez, il y en a 2 qui vous répondent, d'autres ne répondent même pas. Et puis, à partir du moment où on vous répond souvent pour vous dire merci d'avoir pensé à nous, mais votre livre ne fait pas partie de notre ligne éditoriale, etc., jusqu'au moment où on tombe sur quelqu'un qui trouve que c'est intéressant. Et là commence le processus, modification, amélioration, suggestion, etc. Et il faut que ça aboutisse à un contrat. S'il n'y a pas de contrat entre l'auteur et l'éditeur, ça ne reste qu'une idée, qu'un projet vague. À partir du moment où il y a un contrat, on se dit « ça y est, c'est dans les rails ». Et à partir de là, l'auteur disparaît jusqu'au moment où l'éditeur dit « ça y est, le livre est prêt » parce que c'est lui qui prend le relais, qui met en forme le livre, qui contacte l'imprimeur, le distributeur, etc. L'auteur n'intervient qu'après la sortie du livre, éventuellement pour des interviews, des signatures, etc.
D'accord. Et comment ça s'est passé pour votre premier livre ? Est-ce que ça a pris du temps ? Est-ce que...
Le premier livre était technique. On était, techniquement parlant, on était dans un désert. Je n'ai pas eu de difficulté à le publier. Par contre, au niveau du roman, c'était une autre histoire. Le premier roman proprement dit s'appelait « L'amour au temps de la terreur ». Je parlais d'une histoire d'amour entre un juif et une musulmane en Algérie dans les années 90, en pleine période de terreur. Et les éditeurs n'étaient pas très intéressés par un sujet aussi sensible, jusqu'au moment où j'en trouve un par hasard sur Internet, parce que j'ai écrit à des dizaines d'éditeurs. Et puis lui, il a décidé de prendre en charge le livre.
Petite pause musicale avec le morceau « Never Lost » de Cici Winans. On se retrouve juste après.
You can't.
Vous êtes dans la matinale d'FM+, avec notre invité du jour, Nabil Ziani.
Parlons de votre roman, le Mishpat Iudikium, Les procès de Jésus. Première question qui se pose, c'est comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ?
Alors, on approche de la Pâque hein, dans quelques semaines, et ce sujet se rapporte à la mort de Jésus, mais plus particulièrement au processus de jugement de Jésus. Il a été arrêté, il a été jugé, condamné, puis crucifié. Et quand on lit les évangiles, on ne comprend pas grand-chose dans le processus parce que chaque évangile raconte une partie de l'histoire. Il faut donc réunir tout ça et en faire une histoire. Et à partir de là, le jugement de Jésus nous donne quelque chose d'assez particulier. On se rend compte qu'en l'espace de 9 heures, il a été jugé 4 fois. Par 4 juges différents, avant d'avoir été condamné finalement par Pilate. Et on se demande pourquoi tout ça et qu'est-ce qui s'est passé sous la table. En fait, Jésus se retrouve devant chaque juge, par exemple devant Hérode, et il y a un échange. Qu'est-ce qui se passe lors de cet échange? Pourquoi Hérode pose cette question et pourquoi cette réponse de Jésus qui semble a priori n'avoir rien à voir avec la question. Et c'est la même chose avec Pilate, avec le souverain sacrificateur Caïphe, etc. Et donc, c'est tout ça que j'ai voulu comprendre. Et puis, deuxième élément, c'est qu'il y a une histoire millénaire avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens, au moment de la Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé au temps des prophètes, etc. Et à partir de là, j'en ai tiré une substance pour essayer de comprendre justement ce qui n'est pas dit a priori dans le texte, mais qui est sous-entendu par les paroles de Jésus.
Et comment avez-vous trouvé tous ces détails? Est-ce que vous avez laissé une place à l'imaginaire, au romanesque, ou vous êtes toujours appuyé sur les écrits?
D'abord, il faut établir les faits, et ça c'est la recherche. C'est beaucoup de lectures, beaucoup de comparaisons et tout ça. Jusqu'au moment où on étale tous les faits sur la table et on se rend compte qu'il y a des trous, il y a des vides entre différents éléments et ces vides, il faut les remplir. Et c'est là que le romancier intervient. Il imagine le lien entre un élément et un autre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce vide? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce personnage? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé telle chose? C'est ça le côté romanesque.
En tout cas, je trouve cela réussi, car vous nous plongez dans le décor et ça rend votre écrit vivant et je dirais même actuel. On a envie de lire votre livre pour en apprendre plus sur les faits. Dans ce livre, vous nous parlez de Jésus, on voit sa compassion, son humilité. Est-ce qu'en écrivant ce livre, vous avez redécouvert Jésus?
Ah oui, il y a quelque chose d'assez incroyable. Une des choses qu'on se rend compte, c'est que contrairement à ce qu'on dit ça et là, que Jésus est un révolutionnaire qui a défendu ses idées jusqu'au bout et qu'il a été victime de son environnement, etc. En fait, on se rend compte que non, Jésus savait pourquoi il était venu. Il était venu pour donner sa vie. Et donc, il a tout fait pour amener les gens à le condamner et à accomplir les prophéties qui ont été annoncées depuis des siècles. Je trouve Jésus non seulement courageux, parce qu'il aurait pu fuir avant son arrestation, puisqu'il l'avait annoncé. Il a dit à ses apôtres, il a dit, on va venir m'arrêter, me condamner, me crucifier. Il aurait pu à ce moment-là s'enfuir, se cacher. Non, il a affronté cela parce qu'il savait qu'il était venu pour ça. Et le courage est de Jésus de donner sa vie pour des coupables alors que lui était innocent m'a beaucoup touché, m'a beaucoup aidé, oui.
C'est très intéressant la manière dont vous avez écrit votre livre. Vous le scindez en plusieurs parties, avec plusieurs titres, dernier instant, sacrifice, croix, etc. Et chacune de ces parties nous montre des parties entourant le procès de Jésus sous un angle différent, et en même temps les parties se complètent. Est-ce que c'est un choix voulu lors de la rédaction du livre? Comment est venu cet agencement?
Oui, évidemment, il faut qu'il y ait une logique, que le lecteur puisse suivre sans que ça soit de la théologie, sinon ça devient rébarbatif. Difficile. Il fallait raconter des petites histoires et chaque élément est une histoire. Et j'ai voulu, par exemple, situer le roman entre la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire que l'histoire se déroule pendant les 3 jours séparant la mort et la résurrection. Et puis j'ai voulu faire parler des personnages bibliques réels, mais qui n'ont pas dit grand-chose dans la Bible. Nicodème, par exemple, ou Joseph d'Arimathée, et aussi Gamaliel.
Comment vous avez fait le choix de ces personnages-là ?
D'abord, tous les trois sont des docteurs de la loi. Il s'agissait de discuter un procès. Il fallait qu'il y ait des gens compétents pour parler de la loi judaïque d'un côté et de la loi romaine de l'autre. Est-ce que ce qui s'est passé, la manière d'avoir jugé un homme la nuit, la veille de la Pâque, est-ce que c'était légal ou pas ? Et donc, il fallait des gens compétents. Et ce sont les trois gens les plus compétents, à mon sens, oui. Parce que Nicodème, par exemple, Jésus lui a dit clairement, tu es docteur d'Israël. Donc, c'était une sommité dans ce domaine. Et Gamaliel, on sait bien que c'était le maître de l'apôtre Paul. C'était lui qui l'a formé. Donc, c'était des compétences.
Donc, pour ceux qui aiment les romans historiques ou qui veulent en connaître un peu plus sur ces événements centraux qui sont la crucifixion et les procès de Jésus, je vous conseille le Mishpat Iudikium, les procès de Jésus, aux éditions Kingdom Edition par Nabil Ziani. Vous pouvez le trouver sur Amazon et en librairie.
Nouvelle pause musicale, on poursuit cette fois-ci avec le morceau « Mon père » interprété par Mike Massey, un chant extrait de la fresque musicale « Jésus le spectacle » de Pascal Obispo.
J'entends déjà le bruit des pas, le son des voix qui s'approchent. Je sens déjà le baiser froid de cet homme qui m'était si proche. J'entends le cliquetis des armes, le fracas des bâtons sur moi. Je sens couler mon sang, mes larmes qui tomberont dans leur crachat. Mon père, mon père, je voudrais tant que ces bruits cessent, je voudrais retrouver la joie, mon père. Comment faire? Comment revenir en arrière? Se peut-il que la vie renaisse et que tout ça n'arrive pas? Déjà claquer le fouet, d'étaler mes amis traîtres, mes compagnons qui désormais affirment ne pas me connaître. J'entends le bruit sourd du marteau, les clous qui me déchirent la chair. J'entends déjà craquer mes os, j'entends les sanglots de ma mère, mon père. Mon père, je voudrais tant que ces bruits cessent, je voudrais retrouver la joie, mon père. Comment faire? Comment revenir en arrière? Se peut-il que la vie renaisse et que tout ça n'arrive pas? Pierre qui viendra fermer mon tombeau. Il faut le noir pour la lumière et la fin pour le renouveau. Accepter de souffrir sur terre et mourir pour vivre à nouveau. Accepter de souffrir sur terre et mourir pour vivre, vivre, vivre à nouveau. Mon père, mon père, je voudrais tant que ces bruits cessent, je voudrais retrouver la joie. enfer. Comment revenir en arrière? Se peut-il que la vie renaisse? Que tout ça n'arrive pas. Et que tout ça n'arrive pas.
Nous sommes de retour dans la matinale d'FM+, avec notre invité, Nabil Ziani.
Alors, on n'a pas encore fini de parler de vos livres, car il y a un second livre, Les Berbères dans la Bible, paru en 2018, et pour lequel il y a eu une réédition fin 2020. Dans ce livre, on y découvre, ou redécouvre, que les Berbères ont une place importante dans notre société, qui sont à la source de plusieurs inventions comme l'écriture, certaines techniques d'agriculture. Est-ce que vous étiez au courant de toutes ces racines berbères dans le monde avant l'écriture de ce livre ?
Alors, je suis moi-même berbère, oui. donc c'est une question qui m'a touché personnellement, surtout qu'à un certain moment, je découvre un personnage qui m'a beaucoup bouleversé, qui est celui de Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène, alors Cyrène c'est en Libye, donc en Afrique du Nord, et Simon il porte un nom juif, donc c'était un judéo-berbère, et je me suis demandé pourquoi il figure dans la Bible. Première question. Deuxième chose, pourquoi il a été choisi pour porter la croix de Jésus ? Et c'était une question qui m'a beaucoup taraudé jusqu'au moment où je trouve un deuxième personnage qui est celui de Shéchenq, qui est le pharaon d'Égypte qui a pillé le temple de Jérusalem. Et en Afrique du Nord, on célèbre chaque année le 12 janvier, on célèbre le nouvel an berbère en l'honneur de ce personnage. Et je me suis dit, tiens, un deuxième personnage berbère dans la Bible, alors je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc j'ai croisé les informations, puis j'ai creusé, j'ai été plus loin pour découvrir en fait l'histoire des Nord-Africains à partir des données bibliques. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser aussi bien dans la littérature chrétienne que dans la littérature séculière.
Et pourquoi on parle si peu de ces personnages-là ?
Alors, quand on dit, par exemple, que Saint-Augustin était berbère, ça surprend beaucoup de gens, parce que Saint-Augustin est connu pour être un latin. Oui, il était latin de langue, certainement, il était romain de nationalité, j'imagine, mais il est né en Afrique du Nord, il est mort en Afrique du Nord, il a exercé son ministère en Afrique du Nord, même s'il a passé une période de sa vie en Italie, il est resté le père de l'Église. Et le docteur de l'Église, il a les deux titres, c'était un sommet dans la théologie et dans la philosophie. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du christianisme et qui a marqué aussi l'histoire de la philosophie. On ne peut pas étudier aujourd'hui la philosophie ou la théologie sans passer par Saint-Augustin. Et ces questions-là m'ont poussé à me poser la question sur l'origine de mon peuple, sa nature et puis aussi sa destinée, d'autant plus que cinq prophètes dans la Bible annoncent que dans la fin des temps, les Berbères vont se retrouver au devant de la scène.
Vous commencez votre livre en disant « C'est le rôle des historiens d'avancer des théories et d'élaborer des thèses. Ici, nous ne faisons que le travail de documentaliste. » C'est important pour vous de le préciser ?
Oui, en fait, je n'avance pas une nouvelle théorie. Je dis simplement « Il existe des données qui sont négligées ou ignorées par les chercheurs. » Parce qu'on a beaucoup de recherches sur l'histoire de l'Afrique du Nord et des Berbères, mais jamais on ne cite les données bibliques. Et je me suis dit, en tant que documentaliste, il m'appartient de dire, attention, il y a un document qui contient des informations intéressantes qu'il faudrait prendre en considération. Et donc je suggère aux chercheurs de prendre aussi en considération les données bibliques.
Dans votre livre, vous parlez des Berbères, des Arabes et des Amazigh. Quelles sont les erreurs à ne pas faire ?
Alors, berbère et amazigh, c'est la même chose. Berbère, c'est un nom latin ou grec. Amazigh, c'est le mot berbère. Je suis amazigh autant que berbère, c'est exactement la même chose. Arabe, c'est autre chose. Les Arabes sont une autre ethnie qui est venue d'Asie, qui n'est pas africaine, contrairement aux berbères qui sont africains. les Arabes sont venus à partir du 7e siècle répandre l'islam en Afrique du Nord, comme ils l'ont fait ailleurs également, au Moyen et au Proche-Orient. Ils ont répandu l'islam, et avec le temps, on a confondu les Berbères avec les Arabes. Et souvent, quand vous parlez d'un Maghrébin en général, on vous dit « Ah, c'est un Arabe », alors qu'il n'a rien à voir avec les Arabes, c'est un Berbère.
On y découvre que les Berbères sont présents bien avant les Égyptiens, et vous citez même Dernatinus et le fait que les Berbères ont créé des pyramides. Vous parlez d'un Sénégalais qui disait que Ramsès II est d'Afrique noire. Vous nous dites, d'après des recherches scientifiques, qu'il serait plutôt méditerranéen. Comment les lecteurs ont réagi face à cela ?
Alors, en général, depuis la sortie de mon livre, je suis invité à donner des conférences, aussi bien dans le cadre associatif ou dans des églises, etc. Et les gens, en général, sont surpris par tout ça. Il n'y a pas eu de travail dans ce sens qui a été fait auparavant, donc ils prennent le temps de digérer, et puis ils me rappellent. Ils me rappellent pour me poser des questions en disant « on ne savait pas » et il n'y a pas grand-chose sur ce sujet. J'ai essayé plus de sortir des choses inconnues que de rappeler ce qui est déjà connu.
Il y a un point intéressant qui est cité dans votre livre. Souvent, on attribue aux Berbères une malédiction en citant Genèse 9, et vous affirmez que cela ne concerne que Canaan. Pourquoi alors cette controverse avec ce passage ?
Alors, cette malédiction a souvent été distribuée à droite et à gauche. On a dit que les Noirs sont noirs parce qu'ils ont été maudits. Même les mouvements missionnaires dans les années 30, 40, etc., pensaient que les Éthiopiens étaient noirs parce qu'ils étaient maudits. Okay. Et or, quand on lit dans le texte biblique, Cham, quand il prononce sa malédiction, c'est contre Canaan, c'était pas contre ses autres fils. Et Canaan, autant qu'on le sache, il est au Proche-Orient, il n'est pas en Afrique. Et donc, on a dit que les Berbères ont disparu de l'histoire parce qu'ils ont été maudits. Et donc, on a parlé de la malédiction de Cham. Or, il n'y a aucun fondement biblique sur une telle malédiction. Bien au contraire, en comparant un peu les données bibliques, on se rend compte que ce fameux Shéchanq, qu'on appelle chez nous Shéchnar, ce fameux Shéchanq a été un instrument de Dieu, il a été un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé pour accomplir un dessein en Israël.
En fait, votre livre, il vient remettre un peu certaines choses en ordre.
En tout cas, j'attire l'attention sur le fait que certaines données qu'on nous avance ne sont pas fondées et qu'il y a d'autres données à côté qui sont avancées et qui mériteraient d'être étudiées et vérifiées.
Alors, pour finir, on peut dire qu'en tant qu'Européens, nous avons des racines chrétiennes venant du sud de la Méditerranée et que les Maghrébins font partie intégrante de l'histoire de la culture chrétienne. C'est des faits que nous ne devons pas négliger, et votre livre nous permet d'en apprendre plus sur ces faits-là. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se procurer le livre « Les Berbères dans la Bible » de Nabil Ziani, retrouvez-le aux éditions du Gercan. Vous pouvez le retrouver à la CLC, par exemple. Est-ce qu'il est à nouveau disponible sur Amazon ou...
Alors, à partir de la semaine prochaine, tous mes livres seront disponibles sur Amazon.
Ok, super. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ziani, pour votre temps et pour vos réponses.
Merci à vous.
Je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup d'inspiration pour de nouveaux livres. Merci à William en régie. Je vous dis à très vite. C'était la matinale sur 91 FM+.